Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg pour ce nouveau numéro de talk show. Notre invitée aujourd'hui est une professeure. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier dont nous avons déjà parlé, c'était L'Indigne. Et elle sort un nouveau roman qui s'appelle De femmes et d'acier aux éditions de l'Archipel. Notre invitée est Cécile Chabot. Bonjour Cécile Chabot.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous. On vous avait eu déjà sur cette antenne pour Indigne. On est très heureux de vous avoir pour ce nouveau roman qui, je crois, a déjà été primé.
Oui, il vient d'obtenir le prix des femmes de lettres 2024.
Ouais. Justement, avoir des prix, ça, on est content. On dit que son travail a été reconnu.
Ah bien sûr qu'on est content. Oui, c'est un prix d'automne, alors c'est un prix un peu prestigieux et je suis contente pour moi et puis je suis contente pour Nicole parce que enfin Nicole Mangin, mon héroïne, parce que j'ai évidemment envie qu'elle sorte de l'oubli et ben quand on a un prix, on est évidemment davantage remarqué
Oui, alors votre livre est un roman, mais c'est basé sur une histoire vraie, on va en parler dans un instant. La scène se déroule pendant la Grande Guerre, 14-18. Pour vous, c'est une période qui vous intéressait avant d'écrire le livre ?
Oui, c'est une période que j'étudie beaucoup avec mes élèves et le plus intéressante possible, je me suis beaucoup documentée. Oui, c'était une période qui ne m'était pas inconnue.
Un petit mot sur la couverture de votre livre avec la peinture, la photo d'une femme. On parle de Madame Mangin.
Alors, sur la couverture, ce n'est pas Madame Mangin.
Ah.
Non, c'est un tableau. J'ai pas trouvé en fait de photo de Nicole Mangin qui illustre bien mon propos parce que vraiment je voulais avoir une photo de face qui représente la femme combative qu'elle était, mais qui soit avec un regard quand même nimbé de mélancolie, parce que il est question aussi, en plus de son féminisme incroyable, de ses fêlures de femme. Donc je n'avais pas de photo qui représente bien ça, donc j'ai préféré prendre un tableau.
C'est qui, vous savez de qui est la peinture, quelle est la femme qui pose?
Alors oui, c'est Marie Creuillère. En fait, c'est un double portrait. Normalement, à côté d'elle, il y a son mari.
Ouais.
Donc j'ai coupé le c'est un détail.
Le mari, oui.
Voilà. Et donc, j'ai coupé le mari, oui. Mais enfin, le mari est toujours là, ce qui est quand même intéressant aussi parce que finalement, Nicole pense pendant tout le roman à toujours cette blessure d'amour de son mari qui l'a trompée.
Ouais, on va en parler évidemment tout à l'heure.
Voilà. Donc le mari est toujours là. Donc c'est Marie Creuillère et son époux s'appelait Peter Creuillère, je crois.
Mmh. Alors vous racontez l'histoire de Nicole Mangin, qui est l'unique femme médecin française de la Grande Guerre.
Oui.
Cette histoire, vous l'avez connue comment ?
Alors je l'ai découverte un peu par hasard en farfouillant dans la presse ancienne. J'adore regarder la presse ancienne de la fin du 19e siècle, début 20e. Et donc je suis tombée sur un article de prophylaxie, sur la prophylaxie. Et donc je vois ce nom de Nicole Girard Mangin, une photo d'elle avec un uniforme assez particulier et sa chienne. Et donc j'ai commencé à un peu creuser, à regarder qui elle était, et il n'y avait pas grand chose sur elle. Et donc ça a été évidemment le point de départ.
Sa chaîne qui s'appelle Dune d'ailleurs.
Elle s'appelle Dun.
Verlin. Ouais. Autant pour moi pour la prononciation. C'est l'histoire de Nicole Mangin. On va essayer de vous la raconter un tout petit peu. On va le vivre. C'est l'histoire en fait d'une femme qui vit avec ses parents, qui s'entend bien avec ses parents et un de ses frères. Elle décide de faire des études de médecine.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et puis, comme ça arrive souvent, elle tombe amoureuse et son mari lui demande de choisir entre ses études et le fait de se marier. Et elle se marie.
Elle tombe effectivement éperdument amoureuse de
C'est pas
de
son mari qui lui demande ?
D'André Girard. Il est assez ouvert et il lui propose de continuer ses études de médecine, chose qu'elle ne fait pas. Elle est complètement amoureuse de lui. Elle décide de le seconder dans son travail et ses affaires. Malheureusement, il va s'avérer être infidèle et donc elle va choisir de divorcer, ce qui va être un premier acte militant parce qu'évidemment, dans les années 1910, on ne divorce pas.
En plus, elle a un enfant avec lui, ce qui n'arrange pas les choses. En tout cas, dans sa vie, on le voit plus tard dans l'histoire. Donc, elle est engagée un peu par hasard à l'armée pour être docteur, mais ça se passe pas totalement comme elle le voulait.
Oui, mais c'est quand même une histoire incroyable que celle de sa mobilisation, parce que elle s'appelle Nicole Girard Mangin, et sur les listes, il y avait écrit Gérard Mangin, donc elle est mobilisée par erreur à cause de cette faute d'orthographe. Donc elle se rend à Bourbonne et le médecin-chef est prêt à la renvoyer. Il ne veut pas d'elle, c'est une erreur. Il ne va certainement pas accepter un médecin femme. Et elle ne cède rien. Elle dit, peu importe que je sois un médecin, enfin une femme ou un homme, je suis médecin, je reste, la France a besoin de moi. Et c'est ainsi qu'elle va rester sur le front et soigner les maladies contagieuses, puis toutes sortes de blessés.
Vous le dites dans le livre, finalement, Nicole Mangin avait le sens de la repartie, surtout face aux hommes. Ça faisait un peu partie de son personnage, non ?
Mais c'est une femme, vous savez, c'est une femme qui a quand même dû, elle a été mise à rude épreuve, entre ses études dans lesquelles elle était la seule femme dans un milieu exclusivement masculin et très misogyne. Elle avait déjà été mise à rude épreuve et quand elle est arrivée comme ça, au milieu de tous ces hommes et voilà, au milieu de l'armée, c'était encore autre chose, mais elle avait une grande intelligence, une grande vivacité d'esprit et ce qui fait qu'on l'a, on finissait par la respecter. Elle était très travailleuse et très intelligente.
Est-ce que Nicole Mangin est un peu l'avant-garde des féministes comme on en parle aujourd'hui, ou vous le direz autrement ?
Écoutez, pour moi, Nicole appartient, on sait très bien qu'il y a deux types de féministes aujourd'hui. Ouais. Nicole est clairement une féministe universaliste, une féministe généreuse, élégante, qui n'est pas dans la haine de l'homme malgré ce qu'elle a subi, et qui choisit de s'engager, d'agir, et de ne pas se complaire dans l'aigreur, dans la misandrie. Donc c'est évidemment une féministe, ce que j'appellerais au sens noble du terme. C'est une pionnière dont évidemment on doit ne pas dévoyer le combat, parce que il faut faire honneur à ce genre de femme.
Alors, on l'a dit, on en a parlé là, à l'instant même, elle vit dans un monde d'hommes. En fait, cette histoire, elle rappelle aussi souvent les histoires d'autres femmes, mais pas dans la même période, pas dans les mêmes conditions. Est-ce que...
Oui. Oui, elle est effectivement, elle est très seule. Enfin, très seule quand elle est sur le front. Elle va être évidemment entourée d'infirmières par la suite. Mais il y a peu de femmes partout où elle va aller. Il y a peu de femmes. Elle va travailler vers 1917. Elle va travailler avec Marie Curie. Elle croise, je l'ai imaginé. Elle croise Suzanne Pertha qui va devenir Suzanne Noël.
Ouais.
Elle travaille aussi avant la guerre avec toutes les pionnières de l'action sociale, de l'assistanat social, qui sont des femmes totalement oubliées aujourd'hui. Hein, Marie Diemer, Renée de Montmort, Berthe de Béhague, toutes ces femmes-là ont fait énormément pour la France. On ne les connaît plus aujourd'hui. C'est assez incroyable. Donc, Écoutez, c'est...
Nicole Mangin, en fait, a aussi autour d'elle des femmes qui vont la conforter dans ses projets. Là aussi, c'est de l'histoire et pas du roman, toutes ces femmes qu'elle a rencontrées.
À toutes ces femmes qu'elle a rencontrées, d'ailleurs, à chaque fois, je mets en note leur date de naissance, leur date de mort et très rapidement ce qu'elles ont fait, parce que ce sont des femmes que je n'ai pas inventées, ce sont des femmes qui étaient là, qui l'ont vraiment... vraiment accompagnées et croisées. Donc la liste de femmes dont je vous parlais, encore une fois, Marie Diemer, Renée de Montmort, toutes ces femmes-là l'ont croisée. Après, il y a des femmes qui sont des personnages que j'aime et que j'avais envie de mettre dans le roman. Par exemple, Liane de Pougy, qui est une demi-horizontale, comment dire, une demi-mondaine de l'époque, une grande horizontale de l'époque, une courtisane, et j'avais envie de la mettre dans le roman, et donc je les fais dîner ensemble. Ça c'est romancé.
D'accord. Ouais. On va faire une petite pause musicale, Cécile Chabon, on va écouter Julien Clerc avec Femme, je vous aime, et on se retrouve tout de suite après.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois elles le veulent, oui, mais si seul.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïca Strasbourg. Aujourd'hui, notre invitée est Cécile Chabot, De Femmes et d'Acier. C'est un roman aux éditions L'Archipel. Cécile Chabot, il y a évidemment l'histoire, on l'a parlé de la guerre, mais aussi une histoire d'une femme qui est très tourmentée, d'une femme avec des questions de femme, on va dire. C'était un peu ce que j'ai préféré dans nos livres. C'était important de parler de ces fêlures à elle.
Oui, bah écoutez, moi j'ai évidemment c'est autre chose. C'est une introspection. Donc ce sont ces fêlures de femmes, effectivement. C'est quelque chose qui est plus personnelle pour elle, mais aussi pour moi, forcément, parce que son combat, disons, sa biographie, son féminisme à l'extérieur, c'est quelque chose de très biographique. Maintenant, les questionnements qu'elle peut avoir, les tristesses qu'elle peut avoir, ça, c'est des choses qui ont été davantage nourries par mes propres réflexions et puis ce que j'ai vécu moi. Donc, forcément, il y a un peu dans Nicole Mangin, j'ai forcément mis un peu de moi. Hein. Mmh. C'est la première personne, donc j'ai mis beaucoup de choses de moi.
D'accord.
Ça aussi des souvenirs d'enfance. À un moment, elle parle de sa grand-mère.
Ouais.
Bon,
sa grand-mère.
Oui.
Mais alors, voilà. Qu'est-ce qui l'a fait le plus mal? C'est son divorce avec son mari, le fait de ne pas avoir son fils, le départ de ses parents et de son frère qu'elle aimait passionnément. Qu'est-ce qui en fait lui fait plus de mal à votre avis?
Écoutez, la biographie et puis le fait, enfin, quand j'en ai parlé avec son arrière-petit-neveu, il semblerait que ce soit peut-être le fait qu'elle n'ait pas vu beaucoup son fils. Voilà, mon parti pris, ça a été d'appuyer sur la blessure, sur l'infidélité de son mari, sur la blessure d'amour. C'était un parti pris. Voilà.
Dans le roman, on a l'impression que son fils, c'est vraiment... elle le découvre à chaque fois qu'elle le voit, il a grandi, il parle correctement et elle est un peu étonnée parce que finalement elle se rend compte qu'elle ne connaît pas plus que ça.
Bah, elle passe à côté, oui, forcément. En plus, son fils va aller vivre donc avec son père. Mmh. Et son père est un homme bon, qui a de l'argent, qui a une vie assez aisée et la façon de vivre de Nicole. Donc je dis pas que ça va être un étranger, mais c'est pas
son fils.
C'est pas son fils. Si, c'est son fils,
mais biologiquement peut-être.
Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Elle peut pas lui transmettre ce qu'elle est et ses convictions, ses valeurs. Oui, ils ne sont pas assez ensemble.
Mmh. Alors, il y a aussi quelque chose qui est étonnant dans le livre, c'est que quand vous parlez de la guerre et des blessures de la guerre, vous allez franco, hein, y a des choses des fois qui font un peu peur, et en lisant le livre, des fois on est un peu étonné en disant on est allé si loin dans l'explication des blessures, dans des gens qui sont bornes ou stropiés. Cela aussi, c'était un parti pris d'être franc.
Bah, vous savez, j'ai lu des auteurs comme Henri Barbusse, Dorgelès, Genevoix. C'était des gens qui avaient connu la guerre. Ils n'y allaient pas par quatre chemins. Ils n'allaient pas faire des récits aseptisés. Et là, je voulais donc écrire la guerre du point de vue d'une femme. Elle a vécu sensiblement la même chose. Donc j'allais pas prendre des pincettes. Non, il fallait essayer de non pas d'écrire comme eux, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas de mettre les mains dans le sang, dans les viscères, de parler des maladies contagieuses. J'allais pas écrire avec des fleurs, hein. c'était pas du tout le but. Donc oui, et puis il y a certains passage, je pense notamment au passage de son premier acte dans la guerre, quand elle fait accoucher une femme dans une grange. Ça, je me suis inspirée de certaines lectures, notamment de Zola. C'était pas des choses qui se passaient facilement, hein, et encore plus dans ces conditions-là. Donc voilà, il fallait y aller.
Alors, ouais. Vous le dites dans le livre, vous estimez qu'elle n'a pas été assez reconnue, cette femme, très tard en tout cas. À votre avis, pourquoi ?
Écoutez, je ne me l'explique pas, peut-être parce que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire, qui ont écrit l'histoire, et que de toute façon l'histoire est toujours un parti pris. On a beaucoup parlé évidemment de Marie Curie. Marie Curie a une postérité, Marie Curie est au Panthéon, et Marie Curie est partout. Je crois que Nicole Mangin mérite sa place. Voilà, elle a eu un timbre à son effigie. Il y a une allée Nicole Gérard Mangin à Paris dans le 20e. Mais ça me semble un petit peu maigre. Je sais qu'elle est connue dans l'Est, qu'elle est connue aux alentours de Verdun. Elle n'est pas du tout aussi inconnue que sur l'ensemble du territoire. Je trouve que ce serait pas du luxe quand même qu'on l'exhume davantage et qu'on lui donne la reconnaissance qu'elle mérite.
Le livre que vous avez écrit de Femmes et d'acier, c'est un livre engagé.
Ah oui, parce que j'ai à cœur de remettre en lumière des femmes qui ont compté. C'est venu comme ça, mais j'avais commencé avec Rachild. Rachild a été totalement effacée du patrimoine littéraire français, à tort. Et là, cette fois, cette rencontre avec cette femme qui a quand même œuvré pour la France et pour les poilus. Je trouve que c'est, en plus, si vous voulez, c'est une figure que je trouve, on est dans une société totalement fracturée, et je trouve que c'est une femme qui a le mérite, en tout cas je l'ai écrite comme ça, qui a le mérite d'être consensuelle. Je vois pas comment on peut pas aimer Nicole, vous voyez.
Ouais, ce qui est intéressant dans le livre, c'est... permettez-moi de le dire, des fois c'est très féministe et il y a une image des hommes qui n'est pas très reluisante. Ça ne vous a pas dérangé?
C'est-à-dire que les hommes qui apparaissent sont les militaires qu'elle a côtoyés, et moi, pour avoir lu des papiers qu'elle écrivait, des papiers, parce que j'ai eu accès à son intimité, je suis allée dans sa famille, ils m'ont montré des carnets, des documents vraiment personnels qu'elle écrivait même sur le front. Elle était au milieu d'hommes qui ne lui faisaient pas de cadeaux, et pour autant j'espère quand même avoir montré l'image d'une femme qui n'était pas, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui n'était pas dans la haine de l'homme, qui n'a pas hésité à soigner, qui n'a pas hésité, et qui soignait à la fois.
Enfin, elle revendiquait souvent son rôle de médecin et pas d'infirmière.
Mais elle revendiquait son rôle de médecin parce qu'elle était médecin.
D'accord.
Et c'est tout. C'était pas. Elle volait pas son statut, elle avait le statut de médecin, et on le dit à un moment, je viens pas ici pour vous demander ma place, mais pour vous en informer. J'ai été nommée là, je vais travailler en tant que médecin. Elle avait un rôle à jouer, elle voulait le jouer et qu'on ne l'empêche pas de le faire, c'est tout, mais elle avait pas de haine contre les médecins qui étaient là. Elle a dû composer avec eux, mais ça ne devait pas être évident.
Alors, on rappelle votre livre, Cécile Chabot, De Femmes et d'Acier, aux éditions L'Archipel. Pourquoi De Femmes et d'Acier? Le titre, il a une importance?
Ah oui, il a une grande importance. Écoutez, j'ai pas tellement cherché, parce que j'avais cette phrase de Colette, d'ailleurs, que j'ai mise en épigraphe, qui est une phrase extraite de La Vagabonde, qui est la suivante. Je vous la lis, elle est très courte. Soyez sûr qu'une longue patience, que des chagrins jalousement cachés ont formé, affiné, durci cette femme dont on s'écrit « Elle est en acier ». D'accord. Elle est en femme, simplement, et cela suffit. Voilà. Et donc, m'inspirant de Colette, je me suis dit, voilà, ma Nicole, elle est à la fois de femme et à la fois d'acier. Elle se laisse pas faire, mais enfin, ma foi, elle a quand même ses fragilités et ses fêlures de femme. Donc, ce titre me paraissait tout à fait convenir.
Voilà, acheter ce livre, vous verrez, ce sera un moment assez intéressant. J'ai appris plein de choses. Prochain livre Cécile Chabon, vous travaillez sur quoi ?
Écoutez, je ne sais pas pour l'instant, je passe d'un sujet à l'autre parce que ce matin j'étais en train de travailler sur un sujet et puis j'ai rencontré un personnage sympa, donc j'ai commencé à chercher autre chose. Oh là là, je pars dans tous les sens.
Dites-nous, ce sera aussi pendant un moment de guerre ou après ou...
Non. Alors écoutez, là cette fois ça sera peut-être, si ça se trouve je vais complètement changer, mais pour l'instant je suis juste après la Révolution.
D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup Cécile Chabot, on rappelle merci votre beaucoup. Livre de films de femmes et d'acier aux éditions de l'Archipel. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Mais c'est moi qui vous remercie.